de Jérusalem est détruite. Beaucoup d'habitants sont exilés, les plus riches, les plus compétents, etc., s'en vont à Babylone. Et en 539, Babylone va être conquise par les Perses. Donc vous voyez, c'est 50 ans plus tard. Ensuite, en 516, c'est la première vague d'exilés qui rentre à Jérusalem, grâce à Cyrus, roi de Perse, qui avait cette bonne idée de renvoyer les exilés dans leur pays d'origine, leur permettre de retourner ce qu'ils voulaient. C'était sur une base de volontariat. Et en 516, ce qui est important, 70 ans après la destruction, eh bien, ils reconstruisent le temple. Et certains se connaissent les prophéties d'Ésaïe et autres, entre autres, qui annonçaient que cette déportation durerait 70 ans. Donc, eh bien, effectivement, en 516, il y a la reconstruction du temple. C'est intéressant que ça fait effectivement environ 70 ans. Et le temps passe, 58 ans encore après, c'est Esdras qui va être envoyé par le roi de Perse avec une deuxième vague d'exilés, environ 50 000, c'est quand même beaucoup, pour rétablir la justice et appliquer la loi de Moïse dans le pays. Il avait le souci, les rois de Perse avaient ce souci, que les juifs et les populations déportées en général retrouvent leurs racines et retrouvent leur Dieu. C'est intéressant, c'était une grâce de Dieu, ça a permis aux Juifs de rentrer, tous ceux qui voulaient, toujours sur la base du volontariat. Et puis, 13 ans plus tard, en 445, voilà que c'est notre Néhémie qui arrive. Il est aussi envoyé par le roi de Perse, mais dans des circonstances un peu différentes. Le roi de Perse à cette époque s'appelle Artaxerxès. Et le but de Néhémie, c'était de réparer les murailles de la ville et de réinstaller les portes de la ville. Vous avez tous vu les villes du Moyen-Âge qui étaient entourées de grosses murailles. Il en reste quelques-unes à Mantes, si vous voulez voir. Et il y a des portes, et à Mantes, il en reste une d'ailleurs, la porte aux prêtres, on appelle ça. Et il y avait des portes pour rentrer dans la ville et c'était pour protéger les villes des invasions. Donc, 13 ans après... après Esdras. Donc on est en 445. On va juste lire le texte d'aujourd'hui, c'est Néhémie 2, versets 9 à 16. 9 à 16. Arrivé vers les gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate, je leur ai remis les lettres du roi. Celui-ci m'avait fourni une escorte de chefs de l'armée et de cavaliers. Sanballat le Horonite et Tobija le fonctionnaire ammonite ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. Ah, ça fait pas plaisir à tout le monde, c'était important de le noter. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis restée 3 jours. Puis je me suis levée pendant la nuit, accompagnée de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais, probablement une mule. Hein. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. Toutes les portes avaient un nom. Hein. J'examinais la muraille de Jérusalem. Donc, j'examinais. Avec ses brèches, ses portes dévorées par le feu, je suis passée près de la porte de la source et le bassin du roi, sans trouver de passage pour ma monture. Alors, si même une mule ne pouvait pas passer, vous imaginez. Toujours de nuit, je suis remontée par la vallée, sans cesser d'examiner la muraille. Puis je suis rentrée par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allée et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Et on va s'arrêter là. Alors, qui est Néhémie ? Eh bien, c'est un juif descendant d'exilés. Alors, si vous avez entendu un peu les chiffres, c'était probablement ses arrière-grands-parents qui avaient été exilés. Au mieux, ses grands-parents, mais je pense plutôt ses arrière-grands-parents. Il était installé à Suse, la capitale, et il avait beaucoup de chance puisqu'il était au service du roi, comme échanson, c'est-à-dire qu'il lui servait à boire. Alors, c'était un métier un peu risqué parce que parfois le vin était empoisonné, donc l'échanson risquait un peu sa vie, mais à part ça, tout allait bien. Il n'a jamais vécu à Jérusalem. Jamais. Mais il reste attaché à l'Éternel Dieu d'Israël. Et surtout, ce qui m'a marqué, il reste attaché aux promesses de Dieu. faite à Moïse. Et on va lire les promesses qu'il recite lui-même dans sa prière. C'est au chapitre 1, versets 8 et 9. Quand il prie, voilà comment il prie. « Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. » Et il cite la parole de Dieu, les paroles de Dieu à Moïse. « Si vous vous montrez infidèle, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements, si vous les mettez en pratique, alors, même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Donc il était convaincu que la parole de Dieu était vraie, que Dieu ne mentait pas et que s'il avait décidé que le peuple d'Israël rentre chez lui, ça se passerait à condition qu'il revienne vers l'Éternel. Donc il a prié sur la parole de Dieu. Tout à l'heure, Albertine disait prier sur les versets bibliques, sur les promesses de Dieu. C'est exactement ce qu'a fait Néhémie. Il a cité textuellement ce que Dieu avait dit à Moïse. Et c'est pour ça qu'il est bouleversé par le compte-rendu de son frère qui rentre de Jérusalem. Vous allez voir ce que son frère lui avait dit, c'est important de le relire, chapitre 1, versets 2 et 3. « Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. » Donc il voulait savoir comment ça se passait chez lui. Vous voyez, son cœur était resté attaché malgré le nombre d'années qui avaient passé. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. Il est bouleversé. Et on a vu la dernière fois, c'était juste un petit retour sur le passé, nous avons vu la dernière fois que Néhémie passe par plusieurs stades. Sur le coup, c'est une prise de conscience, c'est un choc, prise de conscience d'une réalité qui était vraiment catastrophique. Ça a été chez lui un choc émotionnel très fort et spirituel. Ensuite, on voit qu'il va prier de tout son cœur, deuxième étape, parce qu'il se sent concerné. Alors c'est curieux, quand vous regardez le nombre d'années, je crois que j'avais calculé, c'est 140 ans ou quelque chose comme ça. Et malgré ce nombre d'années qui ont passé, il reste attaché à Dieu, il reste attaché au peuple de Dieu. Il prie tout son cœur et il se sent concerné. Moi, je trouve ça quand même, après tant d'années, se sentir encore concerné, ça, c'est remarquable. Et il va s'impliquer personnellement. Il aurait pu dire « Seigneur, envoie quelqu'un ». On a tous tendance à faire ça. Mais lui, il va dire « Accorde-moi la faveur du roi ». Il a déjà une idée en tête. Ensuite, la première action qu'il envisage, c'est effectivement de parler au roi pour gagner sa faveur. Ensuite, l'occasion se présente 4 mois plus tard. Vous voyez, les étapes sont quand même un peu loin les unes des autres. Il a eu le temps de prier pendant ces 4 mois, il a eu le temps de réfléchir, il a eu le temps de mûrir sa vision des choses et de définir sa mission, ses demandes et ses besoins. Vous voyez, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Et vous savez, avec Dieu, ça arrive que les choses se fassent rapidement. Mais je crois qu'on pourrait tous témoigner que certaines choses prennent du temps. On vient de l'entendre, 8 ans pour ce bébé. Et voilà, c'est la vie, le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre et ça nous ennuie fort parfois. Mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu, il faut le respecter. Et donc, il a eu le temps de réfléchir pendant ces 4 mois. Il cherchait l'occasion, est-ce que je vais pouvoir parler au roi, est-ce que... En 4 mois, il n'y a pas eu de possibilité. Et puis, voilà que l'occasion arrive. Et là, il est capable de faire face au roi et à la reine et d'exprimer extrêmement clairement et avec beaucoup de respect tout ce qu'il veut faire à Jérusalem et pourquoi. Alors ça, c'est intéressant, parce que Dieu lui a laissé le temps de mûrir son projet. Imaginez qu'il aurait eu l'occasion de parler au roi le soir même où il a eu la nouvelle. C'est pas sûr qu'il aurait été aussi posé, aussi clair, qu'il aurait pu définir sa vision aussi bien. Je pense qu'il a eu le temps de prier et de réfléchir. Dieu lui a donné du temps. Et il dit, il reconnaît que c'est la bonne main de l'Éternel qui est sur lui, parce que le roi accepte non seulement de l'envoyer à Jérusalem, de lui accorder les lettres nécessaires pour les matériaux dont il va avoir besoin, et puis de les laisser passer, parce qu'il va traverser des zones où les gens sont regardants. Je ne sais pas s'il y avait une douane, mais il y avait en tout cas des gens qui ne laissaient pas passer les frontières comme ça. Et il va lui donner des laissés-passer pour les gouverneurs. Et il ajoute même, sans que Néhémie le demande, une escorte de soldats avec des cavaliers. Il est quand même sympa, le roi. Oui, en fait, il ne dit pas ça. Il dit « la bonne main de l'Éternel était sur moi ». Et c'est, vous voyez, c'est par moments, on l'a entendu tout à l'heure, on sait que quand la main de l'Éternel est sur nous, que Dieu est avec nous, Dieu dispose. J'aime beaucoup ce verset qui dit « Dieu dispose favorablement à notre égard, même nos ennemis ». Donc le voyage vers la province de Juda, il va être long. Lui aussi, il va durer environ 4 mois. Et j'ai essayé de m'imaginer la distance dans un pays où peut-être il faisait très chaud la journée, peut-être assez froid la nuit. Il va faire face à une réalité assez dure. Il est loin de sa zone de confort, c'est fini la vie au palais, loin de ses habitudes. Il vivait dans une ville riche et confortable, hein, même pour l'époque, hein. Il y avait des villes riches et confortables, hein, quand on regarde un peu ce que nous disent les archéologues. Il quitte tout ça pour aller vers un avenir qu'il ignore totalement. Comment ça va se passer? Comment il va être reçu? Il a 4 mois pour y penser, c'est pas évident. Pensez aussi à la fatigue du trajet. C'était pas des autoroutes, hein, à dos de mule ou de mulet, peut-être de cheval, je sais pas, mais plus de chances que ce soit des mulets. La fatigue, le froid, la chaleur et les dangers. Si le roi avait jugé bon de lui donner une escorte, c'est qu'il y avait des dangers. Et puis après, l'angoisse quand même des responsables des différentes régions. Ils se doutaient que ça ne se passerait pas forcément très bien et effectivement, ils ont été hostiles. Tout ça, il quitte une vie rudement chouette, rudement confortable. Il part à l'aventure, 4 mois comme ça. Et à l'époque, c'était vraiment l'aventure. Hein. C'est pas comme maintenant. Alors curieusement, moi, j'étais étonnée. Vous savez, parfois, on est intéressé par ce que la Bible nous raconte. Puis parfois, on peut se poser la question, pourquoi elle ne parle pas du voyage? Il y a d'autres endroits dans la Bible où on parle des voyages. Et là, pas un mot. Je pense qu'il a été très bien préparé, ce voyage. Ravitaillement, pensez à ça. Ravitaillement, l'eau, trouver les bons points d'eau, bons endroits, les itinéraires, les villes étapes. Néhémie n'a pas bravé les dangers. Il a accepté les guides, certainement, hein, et les soldats. Il a accepté la protection que le roi lui accordait, avec sagesse. Il aurait pu faire le malin et dire « La bonne main de Dieu est avec moi, je n'ai pas besoin de vos soldats, je n'ai pas besoin de votre escorte. » Non, non, il a les pieds sur terre, le roi lui accorde une escorte, « La bonne main de l'Éternel est sur moi. » Il n'oublie jamais que c'est Dieu ultimement qui le protège, mais il accepte l'escorte. J'étais frappée par sa sagesse, parce qu'Esdras avait dit que, bon, ils n'avaient pas osé demander au roi une escorte, etc. Là, le roi lui a accordé. Non, non. Il a accepté la protection avec sagesse, même s'il savait que la vraie sécurité était donnée par la bonne main de l'Éternel. Moi, ce que j'apprécie déjà, là, chez Néhémie, c'est qu'il ne dit pas « Dieu m'a envoyé, alors j'ai besoin de personne ». J'ai Dieu avec moi, donc j'ai besoin de personne. On voit ces comportements-là parfois. Hein, je crois Albertine et son mari auraient pu dire aussi, eh bien, Dieu nous a promis qu'on aurait un enfant, donc je n'ai pas besoin des médecins. Il dit bien, les médecins travaillent aussi pour accomplir les bontés de Dieu à notre égard. Hein. Et il n'a pas cette attitude de folie. Il reste humble et sage, et en même temps, il garde sa foi en Dieu. Et c'est ça qui est difficile pour nous chrétiens. Parce que quand on n'est pas chrétien, on peut dire, bon, ok, je mets toute ma confiance dans la médecine, ou bien, j'en ai rien à faire, on verra bien ce qui arrivera. Mais quand on est chrétien, on garde notre confiance en Dieu, et on ne sait pas si Dieu va utiliser la médecine ou pas. Hein ? Moi, avec 2 enfants hémophiles, je me posais tout le temps la question, qu'est-ce que je fais ? Je donne les facteurs 8 ou je ne les donne pas? Dieu va-t-il faire un miracle ou est-ce qu'il faut que je passe par la médecine? Et on a tous un peu ce problème. Et il faut une conviction pour choisir. Parfois, on est obligé. Et j'avais toujours dit au Seigneur, soit tu fais un miracle pour mes enfants, soit tu les guéris par la médecine, mais surtout guéris-les. Et aujourd'hui, ils ont des médicaments formidables qui évitent de faire des perfusions tous les 2 jours. Qui permettent d'en avoir, je crois, c'est 1 par mois, hein, à peu près. Enfin, ça change la vie. Hein. parce que leur veine devenait, arrivée à 40 ans, hein, leur veine n'était pas en très bon état. Et voilà, Dieu a agi par la médecine. J'aurais préféré un miracle, moi, si on m'avait donné le choix. Mais bon, Dieu donne, il exauce à sa manière. Et on ne peut pas juger pour quelqu'un d'autre. On ne peut pas parler de ça, dire à quelqu'un, « Ah ben moi, il m'a guéri par la médecine, alors toi, vas-y aussi. » Pour chacun, chacun fait face à son Dieu et reçoit ce que Dieu lui dit. Je crois que dans ces cas-là, il faut être très, très sage. Et Néhémie était un exemple de sagesse. Je sais qu'ultimement, c'est Dieu qui me protège, mais le roi m'a donné une escorte. Merci Seigneur. Beaucoup de sagesse. Pendant ces 4 mois de voyage, il a le temps de prier et de réfléchir. Il aurait pu aussi se poser des questions et se décourager. Je ne sais pas, mettez-vous à sa place. C'est long, encore 2 mois, encore 1 mois, encore 15 jours. Il fait chaud, il fait froid. Il ne se décourage pas, il ne bouge pas. On sent dans le texte qu'il ne bouge pas de ce que Dieu lui a mis sur le cœur. Qu'on appelle dans les trios cette vision que Dieu lui a mis sur le cœur. Il n'a jamais vu Jérusalem. On lui a raconté la guerre, on lui a raconté l'exil. Mais tout ça, c'est loin derrière. Oui, c'est 150 ans, hein, j'ai fait le calcul. Il était bien installé, il était respecté à la cour, il était bien vu par le roi. Mais pourquoi entreprendre un pareil voyage aussi long, dangereux, pour restaurer quoi ? Une ville en ruine. Pauvre. Et occupé par énormément d'étrangers, il n'y avait pas que des juifs. Et puis comment vont réagir les gouverneurs locaux ? Ils se doutaient que ce ne serait pas facile. Et les Israélites, habitués à leur triste vie, est-ce qu'ils vont accepter sa vision ? On peut se poser la question. Vous savez, parfois on s'habitue au malheur. Ça semble dur de le dire comme ça, mais moi j'ai vu des gens qui étaient habitués à leur malheur et ils n'avaient pas envie d'en sortir. C'est triste, mais l'être humain est comme ça. Est-ce qu'ils vont accepter les changements ? Est-ce qu'ils vont accepter de se mettre au boulot aussi ? Ils se disent, après tout, à quoi bon ? Donc tout ça, ça devait lui tourner dans la tête, parce qu'il était intelligent, Néhémie, mais ça ne l'a pas découragé. Et ça, moi, je l'admire. Il avait largement le temps de se décourager pendant ce voyage, il ne s'est pas découragé. Et de plus, moi, j'ai réfléchi à ça. Dieu ne lui a jamais parlé directement, comme à Samuel. Vous vous souvenez, Samuel, Samuel, Samuel ? Non. Et Gédéon, Dieu lui avait envoyé un ange. Eh bien, lui, non. Le pauvre Néhémie, il n'a pas eu droit à tout ça. C'est dans son cœur que ça s'est passé, et avec la parole de Dieu. Dieu avait promis, il a relu cette, ou il la savait peut-être par cœur, cette parole de Dieu qui dit « Je vous ramènerai dans votre pays ». Il avait ça dans le cœur. C'est tout. Bah, dites donc, il faut tenir le coup, là. Parce que bon, quand on voit un ange ou quand Dieu vous parle bien fort, c'est quand même plus facile. Là, il a tenu le coup, avec si peu de choses. Mais ce n'était pas peu de choses, c'était la parole puissante de Dieu. Sa vision de reconstruction, elle n'est pas spectaculaire en fait. Ce n'est pas Gédéon, ce n'est pas Samuel. Elle s'est développée dans son cœur, face aux nouvelles qui avaient été données par son frère, et sur la base des promesses de Dieu dans ce que les Juifs appellent la Torah, hein, les premiers livres de la Bible. Puis avec la confirmation royale, c'était quand même une grosse confirmation, ça l'a aidé. Mais est-ce que ça va suffire ? Cette vision où il s'implique personnellement, il y travaille depuis le début, dans sa tête. Et je pensais à ce chant, j'aurais bien demandé à Yuno qu'on le chante, mais je ne suis pas sûre que beaucoup de gens le connaissent, qui dit « Prie, agis, jour après jour ». Je savais que vous le connaîtriez. Voilà, « Prie, agis, jour après jour, sans compter, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et Dieu rendra ton travail puissant ». J'aime beaucoup ce cantique parce que c'est « Prie et agis ». Parfois, il suffit de prier simplement, mais en général, prie et agis. Vous savez, on ne peut pas faire des trucs absolus hein, dans ces domaines-là. J'ai vu des fois où Dieu a agi juste suite à une prière et d'autres moments où il faut prier et agir. Alors, il n'a pas prié « Seigneur, envoie quelqu'un ». Moi, ça, j'aime bien. Il s'est dit « Voilà, Seigneur, j'y vais, dispose favorablement le roi à mon égard ». Il s'implique, mais il ne va pas tête baissée. Il a procédé avec énormément d'ordre. Dieu d'abord, le roi, puis une visite sur place. Il est méthodique, notre Néhémie. C'est un modèle pour les gens qui, justement, ont une vision pour quelque chose, une entreprise, une vision familiale, une vision pour le Seigneur, enfin, toutes les visions qu'on peut avoir dans la vie, les choses qu'on a envie d'entreprendre, c'est un vrai modèle. Il procède avec ordre. Dieu d'abord, le roi et la visite sur place. Il ne brûle pas les étapes. Il reste dans le respect des autorités, même s'il sait que Dieu est bien plus important que le roi. Mais il n'est pas là du « Ouh, de toute façon, Dieu est avec moi, le roi. » Il respecte les choses. Et ça, moi, je trouvais un équilibre incroyable, on va en reparler tout à l'heure. Et puis, son appel, il le garde dans son cœur jusqu'au bon moment. On va le voir tout à l'heure. Ce qui fait que quand on reçoit une vision, que ce soit pour notre vie, il y a des extrêmes à éviter. Hein? Vous avez la possibilité de dire « Bon, j'attends que ça se réalise tout seul. » Bon, c'est un rêve. Mais malheureusement, moi, je connais des gens qui ont eu comme ça une vision assez formidable. Et ils attendent toujours aujourd'hui. Et arrivés à la fin de leur vie, ils attendent. Et puis, il y a l'autre côté. Hein. Je fonce sans réfléchir, parce que Dieu m'a parlé. Alors, boum, tête baissée. Et là, ça fait de la casse parfois. Et c'est pour ça que Néhémie est un bon modèle. Vous avez une vision pour votre vie, votre famille, votre entreprise, n'importe quoi. La vision, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réaliser sans Dieu. Mais ce n'est pas interdit de demander et d'exercer la sagesse de Dieu. Ce n'est pas interdit de préparer, de réfléchir, d'avoir une bonne organisation, à condition que ça ne remplace pas la foi. Si c'est ma réflexion qui fait tout, effectivement, c'est une idole, j'aurai des problèmes parce que dans le royaume de Dieu, l'intelligence humaine, c'est bien, mais elle a ses limites. Il faut toujours savoir que c'est Dieu qui est en contrôle et c'est à lui qu'on rend des comptes. Si ça ne remplace pas la foi, par contre, si ça ne remplace pas la confiance en Dieu, c'est bon de réfléchir et d'agir avec équilibre. Néhémie est un super exemple. Il fait face à la réalité, mais il ne se décourage pas et il ne perd pas la foi. Alors, il est très sage. Vous voyez, il arrive à Jérusalem, il y passe 3 jours. Et là, on se demande ce qu'il a fait pendant ces 3 jours. Alors, on va me dire, bon, il était fatigué, il s'est reposé. Oui, mais il a dû quand même manger, il a dû parler aux gens. Et je soupçonne, alors là, c'est pas écrit, mais bon, je me mets à sa place, hein, 3 jours à Jérusalem, qu'il a parlé avec les gens, ne serait-ce que ceux qui lui ont donné à manger. Est-ce qu'il était dans une auberge? Est-ce qu'il a été reçu par des notables? On ne sait pas. Mais il a parlé avec les gens. Il a parlé de ce que Dieu lui a mis à cœur, non pas encore. Il attend le bon moment. Il écoute les habitants. Ah, c'est important de savoir ce qu'ils pensent. Hein. Parce que quand il va leur demander de se mettre au travail, il a intérêt à savoir qui il a en face de lui. Hein. Il vérifie toutes les informations qu'il a reçues, certainement, sur le moral des habitants. Vous vous souvenez ce qu'il avait dit, son frère? Les habitants sont dans la misère, dans la désolation, dans la honte. Il ne veut pas se précipiter. Et je ne sais pas si bon, ma génération, vous avez tous entendu parler de Zorro, peut-être les plus jeunes aussi. Vous savez, il y avait cette petite chanson sur Zorro. Zorro est arrivé, je ne vais pas vous la chanter parce que je ne chante pas bien. Mais, et je me suis dit, tiens, Néhémie, il aurait pu arriver comme ça. Hé hey, les gars, Zorro est arrivé là, vous allez voir. Il a pas du tout cette, il donne pas du tout cette impression. Il ne dit rien pendant 3 jours, il écoute. Ben, il est logique. Parce qu'il se doute bien que les gens en savent plus que lui sur la situation. Lui, il arrive, il n'a jamais habité à Jérusalem. Donc il sait que ces gens-là en savent plus que lui. Et il veut voir de près les dégâts avant de parler. Il n'a pas encore visité la ville. Et donc il préfère se taire. Ils en savent plus que lui. Il est dans la discrétion, dans l'humilité. Il observe avant de proposer quoi que ce soit. Pendant 3 jours, il ne dit rien. Il parle avec les gens, il les écoute, mais il ne parle pas de son projet. Alors maintenant, on va se dire voilà qu'il part pour visiter la ville de nuit. Bon, alors attends, il n'y a pas d'électricité à cette époque-là, hein, il n'y a pas de panneaux publicitaires avec des néons. Comment est-ce qu'on peut visiter une ville de nuit? Ben, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, mais on a eu une nuit, alors je ne sais plus, c'était lundi ou mardi, je ne sais plus, on a eu une nuit où on voyait très bien dehors. Et comme j'étais en train de travailler ce texte, je me suis dit, ah ben il attendait la pleine lune, il attendait qu'il n'y ait pas de nuages pour visiter tranquille, les gens dorment, personne ne va l'embêter et il va y voir suffisamment pour voir les trous dans la muraille, les portes brûlées, ça suffit, moi je voyais bien, je voyais même mes jonquilles, voilà. Donc on voit,
quand la lune brille.
Alors il attendait certainement une nuit de pleine lune, et elle a eu lieu 3 jours après. Il veut faire un état des lieux sans être distrait par la foule. Il ne veut pas qu'on le voit, parce que les gens seraient posés des questions. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le visiteur ? Oh ben donc, il se lève la nuit pour aller faire la visite, mais il est malade. Vous savez, dans ces gens, le téléphone, ça marche, le téléphone arabe. Hein. Et les gens ont dit, mais il a quelque chose, le gars. Hein. Il se lève au milieu de la nuit pour aller visiter quoi ? Des ruines ? Ça aurait posé plein de questions. Donc, il fait ça la nuit et il s'arrange pour ne pas faire de bruit. Il n'emmène qu'une seule monture. Parce que ça s'entend quand même, hein, les sabots des chevaux et tout ça. Il préférait faire ça silencieusement. Il veut faire un état des lieux, sans être distrait. Il veut vérifier ce qu'on lui a raconté. Parce que c'est bien ce que les gens racontent, mais il faut voir sur place. Et c'est une vérité pour tout le monde, mais particulièrement quand on est chrétien. Il faut qu'il connaisse bien les difficultés et les problèmes avant de proposer une réparation, une reconstruction. Hein, c'est évident. Pour inspirer confiance aux habitants, il faut absolument qu'ils connaissent les lieux et l'ampleur des travaux à faire. Et ce que j'aime, c'est la façon dont il va regarder. Vous avez remarqué, il examine. Hein, il examine. Il évalue la quantité de travail. Il ne se contente pas de dire « Ouh, il y a un trou dans le mur !» Il se dit « Oh là là, ce trou-là, il y a un tas de pierres à côté, ça sera facile à reboucher. On va juste nettoyer les pierres, on va les replacer. Oh, là, il y a un tas de décombres. Ce sera plusieurs jours. Non, on n'y arrivera pas. Il y a un tas de décombres, le bas de la muraille est tombé. Là, je vous parle parce que j'ai lu les récits des archéologues. Il y a un tas de décombres. Il y avait un endroit où les fondations des murailles étaient liées aux fondations des maisons autour. Et tout s'était écroulé. Les maisons et toute la muraille. Là, alors ça, c'est les archéologues qui l'ont vu. Hein. Ils ont vu que Néhémie avait reconstruit le mur un peu plus loin. C'était moins compliqué et ça prendrait moins de temps. Et tout ça, ça tourne dans sa petite tête. Il regarde, mais il est déjà dans le faire. Qu'est-ce qu'on va faire là ? Qu'est-ce qu'on va faire là ? Il vérifie ses infos sur place. Il ne veut pas agir seulement par oui-dire. Parce que le oui-dire pourrait être exagéré. Oh, c'est irréparable, c'est affreux. Ou bien alors, oh, vous en faites pas, on y arrivera. Mais rien de sérieux. Lui, il va sur place et il veut voir, il prend ses infos en regardant. Il est sérieux, il est méthodique, il fait face à une réalité objective. Il reste factuel dans sa description, mais, et c'est ça moi qui me touche, il ne perd pas la foi. Moi, je sais pas, je m'imagine à sa place faire le tour des murailles. J'aime bien les vieux murs et tout ça, les fortifications et tout. À chaque fois que j'allais à l'école Notre-Dame, je regardais la porte aux prêtres, les murs, les murs épais de je ne sais pas combien de mètres. Et c'est passionnant. Et il est sérieux, il est méthodique, il regarde, mais il ne perd pas la foi. Il ne se dit pas... On n'y arrivera jamais. Oh là là, le nombre de brèches, j'arrive même plus à les compter. Le nombre de portes brûlées, oh là 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 là, on va jamais y arriver. Il ne se décourage pas. C'est là qu'on voit que la bonne main de Dieu était sur lui. Il pouvait faire face à la réalité sans perdre la foi. Ça, moi, j'admire. Il connaît son Dieu, il est sûr de son appel et il est sûr de sa mission. C'est grâce à ça qu'il tient le coup, d'ailleurs, hein, parce que, hein, franchement... La foi, alors c'est moi qui dis ça, mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû le dire avant moi. La foi, c'est pas nier les problèmes et dire « tout va bien, je vais bien ». Non, la foi, c'est voir les problèmes, mais affirmer que Dieu est plus grand que mes problèmes. Et ça, c'est pas facile. C'est facile à dire, mais c'est pas forcément facile à faire. Hein. Quand vous êtes à l'école et que vous avez un contrôle... et que vous n'êtes pas bon dans cette matière-là, ce n'est pas facile de dire « Seigneur, je vais faire tout ce que je peux, je compte sur toi, tu es plus grand qu'un peu de problème, tu vas m'aider. » Donc pensez-y, vous tous qui avez des examens, des contrôles, la foi, ce n'est pas nier les problèmes, « Oh, ça va, je m'en sortirai. » C'est affirmer que Dieu est plus grand et que Dieu peut m'aider, et garder la confiance en Dieu. Alors, il évalue bien sûr les travaux nécessaires. Oui, alors souvent les versions, on a « considérant les murailles »,« réfléchissant » ou on a « examinant ». Et on voit 3 fois hein, ce mot-là, « examinant les murailles »,« réfléchissant aux portes ». J'examinais encore les murailles. Donc, il insiste sur le fait qu'il examine. Voir l'état des lieux, ça lui permet aussi de s'adapter. de s'adapter au contexte. Et on parle dans, évidemment, dans les trios de contextualisation, c'est ça, hein, cette fois-ci. Il s'adapte au contexte. En observant, il va s'adapter. Par exemple, quand il voit ce tas de décombres énormes, il se dit, voilà, on ne va jamais y arriver, là, ça va être trop, c'est trop dur, ça va prendre trop de temps, on va opter pour construire un petit peu plus loin ce mur. Ou bien, donc ce n'était pas prévu comme ça, mais lui, il s'adapte. Ou bien alors, mais là, il y a un tas de pierres magnifiques, c'est carrément les pierres qui sont tombées de ce trou. Bon, on les nettoie et on les replace dans la muraille. Ce sera plus simple. Et là-bas, il faudra les retailler un peu, parce que voilà, elles se sont abîmées. Il réfléchit à tout ça. Si nécessaire, il faudra reconstruire une portion entière. Et puis, à d'autres endroits, on se contentera de boucher les trous. Pour mettre en place sa mission, c'est important pour Néhémie de faire face à la réalité. Et c'est ça, quelquefois, qu'on a du mal en tant que chrétien. Parce qu'on se dit, ah non, je ne veux pas voir. Ça me fait penser à mon médecin, quand elle voyait mes enfants faire du vélo, elle était de temps en temps à la maison, et elle me disait, ah là, je ne veux pas les voir. Je ne veux pas les voir. Elle m'avait donné des casques au cas que bah, s'ils tombent, tout ce qui peut se produire pour un hémophile, c'est évidemment... Ça la rendait malade. Ah, je préfère pas voir. D'accord. Mais non, il faut voir la réalité. Il faut la voir. La nôtre, celle des autres, celle de l'environnement. Parce que ça va nous permettre de nous adapter. Et pour mettre en place sa mission, il faut qu'il interprète correctement la réalité pour faire les réparations nécessaires. Et ça, c'est le problème du diagnostic, hein, comme font les médecins, hein, diagnostic. Et c'est important de le faire. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas perdre la foi à côté. C'est-à-dire, je fais confiance dans mon Dieu pour ce problème. Mais dire que le problème n'est pas là, ça ne résout pas les choses. Le problème est là, mais je fais confiance en mon Dieu. Et ça, Néhémie, moi, je suis admirative. Comment il a pu faire ça avec autant de force? Alors, c'est important de dire que Dieu n'est pas contre la réflexion. Dieu nous a donné un cerveau, et là je m'adresse aussi aux jeunes, Dieu vous a donné un cerveau avec des capacités intellectuelles. Travaillez. Dites pas, bah, le Seigneur m'aidera. Oui, bien sûr, il vous aidera. Mais si vous n'avez rien révisé, peut-être il vous fera grâce une fois, mais je ne vous garantis rien. Hein. Par contre, si vous avez fait votre travail, là, vous pouvez mettre toute votre confiance en Dieu. Dieu n'est pas contre la réflexion. Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour s'en servir. Et on a tous un cerveau qui fonctionne. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer certaines choses. Moi, je n'aime pas les maths. Et j'étais particulièrement nulle en maths. Mais bon, j'ai fait confiance à Dieu. Dieu m'a aidée. J'ai travaillé aussi un peu. Mais bon, il n'est pas contre l'organisation, il n'est pas contre l'observation, il n'est pas contre la sagesse. Il dit même, si vous manquez de sagesse, c'est déjà bien de le reconnaître, demandez-en à Dieu et il vous la donnera. Il n'est pas contre la stratégie, il n'est pas contre le fait d'imaginer comment on va faire, etc. Mais il faut jamais oublier que ça ne remplace pas la bonne main de l'Éternel sur nous. Si toute ma confiance est dans mon cerveau, si toute ma confiance est dans mes capacités, qu'elles soient physiques, morales, spirituelles, intellectuelles, alors là, c'est pas génial. Ça marchera pas. Quand on est chrétien, notre confiance, elle est en Dieu. Et on met à profit les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Mais notre confiance, fondamentalement, elle est en Dieu. Et il nous permettra d'accomplir notre mission avec succès à partir du moment où on met notre confiance en lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, que « oh ben non », parce que moi j'ai connu des chrétiens comme ça, « oh ben non, c'est diabolique de réfléchir, ou bien c'est diabolique de prévoir les choses. » Non, non, non. Néhémie trouve un équilibre extraordinaire. Il fait son boulot, mais il sait qu'ultimement, c'est la confiance en Dieu, la foi en Dieu, le fait que c'est la bonne main de Dieu est sur nous qui va nous donner le succès. Et pas nos capacités. Okay, ça, c'est un équilibre difficile à tenir, hein, mais c'est très très important. Et Néhémie, pour moi, c'est un exemple formidable, un excellent modèle. Alors, j'ai fait un petit exercice d'équilibre, là, hier soir, parce que j'étais tellement émerveillée par la façon dont il s'y est pris. Équilibre entre quoi ? Ses émotions. Quand il a appris que oh, la ville, c'est un désastre, les gens sont dans la misère. On sent qu'il a eu une émotion, il a eu un choc émotionnel. Et puis la sagesse. La sagesse, c'est ce qui va baliser notre chemin vers notre mission. Il met en équilibre la préparation et la confiance en Dieu. Il se prépare, mais sa confiance est en Dieu. La prière et l'action. La patience et attendre le bon moment pour faire sa demande au roi. Vous voyez, il a été patient pendant 4 mois, le bon moment n'est pas encore arrivé. Et là, il arrive, je saute dessus. Il a su faire cet équilibre, il a attendu et il a trouvé le bon moment. L'équilibre entre la vision reçue de Dieu et l'évaluation objective du contexte. Dieu m'a dit de reconstruire les murailles, j'y vais, mais je regarde ce qu'il faut faire. J'évalue les dégâts, j'évalue le travail. L'équilibre entre l'attente et la mise en route. Ces 4 mois de voyage, ça a été long. Il n'avait pas le choix. Mais quand il est arrivé, il attend 3 jours et hop, vous allez voir bientôt, il va parler aux gens. L'équilibre entre voir le problème et garder la foi, j'en ai parlé. L'équilibre entre observer, préparer, évaluer, réfléchir et dire « Seigneur, je compte sur toi. La bonne main du Seigneur est sur moi. C'est elle qui ultimement va me donner du succès. » C'est un équilibre difficile à tenir. L'équilibre entre voir l'étendue des dégâts et garder le courage et la foi. Moi, je sais pas, si je vois l'étendue des dégâts, j'ai envie de baisser les bras et de dire « on n'y arrivera pas ». Mais Néhémie, il voit l'étendue des dégâts, il fait même le tour, il réfléchit, mais il garde la foi. Et il va s'adresser aux notables pour leur dire « allez, levons-nous, bâtissons ». On va voir ça la semaine prochaine, ou bien je sais pas quand, un peu plus tard. Et puis, le temps pour l'écoute, le silence, la discrétion. Et puis, un temps pour communiquer. C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Il y a un temps pour tout. Il respecte ce temps. Il va reconnaître les dangers, les oppositions, mais il va refuser la peur parce qu'il a confiance en Dieu. Il va accepter l'aide des hommes, mais il va compter surtout sur l'aide de Dieu. Et là, il aurait pu dire, ouais, allez, je vais les motiver, ça va, ils vont faire le job. Il compte surtout sur l'aide de Dieu. Cet équilibre, c'est celui qu'on aimerait tous avoir, et puis on va prier pour ça, dans votre vision, et je pense pour les jeunes particulièrement, c'est important, dans votre vision pour votre vie, votre travail, tout ce que Dieu vous met à cœur, pensez-y. Et bien sûr, les adultes aussi, essayons de garder cet équilibre, comme Néhémie. Tout en sachant quelque chose qui va démolir tout ce que je vous ai dit. Non, ça ne va pas le démolir. En sachant que Dieu est aussi dans les interruptions. Vous préparez quelque chose, vous faites bien votre travail, et puis, pouf, Dieu va faire une interruption miraculeuse. Et nous, on l'a vécu dans l'église. Moi, je me souviens avoir vu André travailler sur le dossier à donner à la banque pour acheter ce local. Magnifique dossier, comment dresser les fers, bien reliés, couverture transparente. C'était pour les travaux. Ouais. Et oui, pardon, c'était pour les travaux. C'était pour l'achat. Et à 7h du soir, on a un coup de fil de quelqu'un qui nous explique qu'elle avait un vase à vendre, qu'il allait se vendre à Drouot, et la vente de ce vase a couvert tout l'achat de ce bâtiment et les premiers travaux. Ce qui fait que le soir à 7 heures, ils ont dit « André, tu ne vas pas à la banque demain matin, ce n'est pas la paix. » Une interruption brutale. Mais bon, merci Seigneur, que ça ne l'a pas dérangé qu'il y ait un dossier qui soit prêt. Il ne faut pas être superstitieux, ce n'est pas parce que « Ah ben André, il a fait un dossier, alors c'est foutu d'avance. » Non, Dieu, ça ne le dérange pas, hein. Ah, c'est bien, t'as bien travaillé, t'es méthodique, c'est bien. Mais tu vas voir, moi, je sais interrompre les choses. Et je sais faire des miracles. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez fait votre traitement de médicaments, si vous avez suivi sagement votre traitement, si vous avez suivi des conseils de sagesse. Ça n'empêchera pas Dieu d'agir et de faire un miracle. Hein? N'ayez pas peur. C'est pas parce qu'on fait les choses que Dieu va dire « Oh, bon, il l'a fait de lui-même, alors moi, je vais pas faire de miracle ». Non. Dieu est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Et notre réflexion, notre travail, ça ne l'empêche pas de faire un miracle. Et on était bien contents, je vous avouerai, de ce miracle. On est encore contents aujourd'hui. Et moi, je pense aussi à Fabien, qui est le beau-frère de David, pour ceux qui ont connu David, qui a fait tout un dossier d'adoption parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ça lui a pris du temps. Vous savez, les dossiers d'adoption en France, c'est quelque chose. Ah ouais ? Eh ben, elle a attendu un bébé. C'est une jolie petite fille, hein. Elle est grande maintenant. Ben oui, Dieu, ça l'a pas dérangée, hein. Oh, Fabien manque vraiment de foi. Il a fait un dossier d'adoption. Il a fait son dossier. Et puis Dieu a dit, eh les gars, je fais un miracle. Et il a eu son bébé. Et le deuxième, il a refait un dossier d'adoption et il a eu un magnifique bébé adopté. Dieu ne fait pas toujours la même chose. On est dépendant de lui. Donc, tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. Recherchons cet équilibre, mais laissons une place pour les interruptions de Dieu. Marie, croyez pas qu'elle a été interrompue dans sa vie, la pauvre Marie et Joseph. Mais Dieu fait des interruptions de temps en temps. On prépare des choses, on fait avec notre intelligence, mais ça ne lui fait pas peur au Seigneur. S'il a décidé de faire un miracle, il le fera. Il le fera. À partir du moment où on garde la confiance en lui. Ça, c'est capital. Ne mettons pas notre confiance dans tout ce qu'on fait, dans notre réflexion et tout ça, mais mettons notre confiance en Dieu. Et vous savez, je parlais hier avec André, je me rappelais d'un culte, alors j'arrive plus à le resituer, d'un culte où on avait bien préparé notre culte. Je me demande si ce n'était pas du temps d'Yves Cornas, d'ailleurs. On avait préparé, tout était, chacun savait ce qu'il devait faire, etc. Et puis le Saint-Esprit est descendu pendant le temps de louange. Eh bien, on n'a rien pu faire de ce qui avait été prévu. Et on a eu un temps merveilleux. Oui, le Saint-Esprit fait des interruptions. Et bénissons ces interruptions. Bénissons le Seigneur pour ces interruptions. Il est le Dieu des miracles.